la méditation qu'il nous a proposée là, dans le livre. Et le Saint Paul VI. C'est lui qui a proclamé, vous savez bien, que Marie était mère de l'Église, avec tous les évêques du monde présents à la fermeture de la deuxième session du Concile Vatican II. Alors voilà ce qu'il dit. Pour cette méditation, le chrétien doit faire grand cas des vertus morales propres à la nature humaine. Il doit faire grand cas des vertus morales propres à la nature humaine considérées intégralement. Et il cite la première de ces vertus. La première de ces vertus, la sincérité, la vérité. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Nous devons libérer le chrétien de cette opinion fausse et dégradante qu'il lui est permis de jouer avec sa parole. Qu'il peut entretenir un double jeu entre ses pensées et ses paroles. Et qu'il peut bien tromper son prochain. Le manteau de la religion n'est pas fait pour couvrir l'hypocrisie. Et il en va de même pour la justice. Tout d'abord, la justice commutative, celle qui regarde ce qui est mien et ce qui est tien, c'est-à-dire l'honnêteté des rapports économiques, des affaires, la rectitude administrative, particulièrement dans les services publics. Et ensuite, la justice sociale. Il en va de même du sens du devoir, du courage, de la magnanimité, de l'honnêteté des mœurs, nous devons grandement apprécier ces vertus naturelles propres à la nature humaine considérée intégralement. Sans oublier, cependant, que, en dehors de la grâce, elles sont incomplètes. En dehors de la grâce, elles sont incomplètes et souvent associées aux faiblesses humaines les plus déplorables. Et souvenons-nous enfin que les vertus naturelles, propres à la nature humaine considérée intégralement, par elles-mêmes, elles n'engendrent pas la grâce surnaturelle. Et c'est Marie qui engendre la grâce surnaturelle. C'est la mère de l'Église. C'est qu'elle engendre la grâce surnaturelle. Le Christ engendre la grâce surnaturelle. Marie est mère de l'Église, puisque l'Église, c'est la demeure de la grâce surnaturelle. Et Marie a engendré, avec Dieu le Père, hein, assumé, éperdument disparu dans sa sponsalité, dans l'incréé, avec la première personne de la Très Sainte Trinité, elle a engendré la première grâce surnaturelle. Et la première grâce surnaturelle qu'elle a engendrée, avec le Père, au sein de son hypostase incréé, elle a engendré le regard du Verbe de Dieu, la conception intime et éternelle de Dieu, cette conception a tourné son regard de conception en elle-même sur la conception de l'Immaculée Conception, éperdument et indivisiblement unie à la fécondité éternelle de l'hypostase de la première personne de la Très Sainte Trinité. Cette conception a donc tourné son regard vers la conception créée et elle a donc engendré ce regard de la conception jusqu'à la conception. Et c'est pourquoi il a été conçu en elle. Cette conception, cette première grâce, surnaturelle s'appelle l'union hypostatique. Et cette union hypostatique est elle-même avec l'unité de fécondité incréée et indissolublement unie à la fécondité quasi incréée de Marie. Dans l'indivisibilité, c'est une seule fécondité incréée. Cette union hypostatique, à son tour, a engendré à l'intérieur d'elle, au sein d'elle-même, la grâce capitale du Christ. Et la grâce capitale du Christ est devenue source de vie surnaturelle. Marie, eh bien, elle est mère de Dieu. Mais elle est mère, elle est identifiée à ce passage de l'union hypostatique à la grâce capitale du Christ. Elle est mère de l'Église. Elle est au-dessus du ciel. Parce que l'union hypostatique, lorsqu'elle s'épanouit en fécondité de grâce surnaturelle, en la grâce capitale, est au-dessus du ciel. Puisque les anges ont reçu la grâce de la lumière de gloire à la suite de leur épreuve, et cette grâce est issue de quelque chose qui est au-dessus d'eux. Donc tu ne jugeras. Et le trône de Dieu, c'est ce lien entre Marie et la paternité, dans cette fécondité de grâce naturelle, dans le passage de l'union hypostatique à la grâce capitale. C'est le trône de Dieu. Et ce trône de Dieu, il est conjoint à la lumière de gloire donnée au monde angélique du ciel. Et Jésus, il le dit, le trône de Dieu, c'est le ciel. C'est la grâce de la lumière de gloire donnée au monde angélique à la suite de son épreuve. À la suite de son oui ou de son non. L'ange dit oui et il dit oui. L'ange dit non. Et dit non. Et après, la grâce surnaturelle Et bien, elle a communiqué à toutes les autres créatures spirituelles. C'est-à-dire nous, hein. Et tout ce qui ne va pas au-dessus du trône, ça va devenir hypostatique. À la communication de la grâce capitale dans le Christ, ceux qui ne vont pas jusque-là, eh bien, en vérité, ce n'est pas de la grâce surnaturelle. Tu ne peux vivre de la grâce surnaturelle que si tu es dans le Christ et au-dessus du monde angélique, tant qu'au-dessus. Donc tu ne jureras pas par le trône de Dieu, tu ne jureras pas par le ciel, tu ne jureras pas. Toutes les vertus, et c'est agréable d'entendre Paul VI dire ça, que la première de toutes les vertus, c'est la vérité, et la seconde, c'est la justice. Justice et vérité s'embrassent. Parce que ces deux vertus-là, qui sont des vertus humaines, de notre cœur humain, de notre expression, qui montre la qualité humaine de notre vie sur la Terre, qu'elle est liée à l'humanité intégrale, c'est-à-dire qu'elle est dans la signification sponsale de son oui. L'humanité intégrale, il faut toujours se rappeler, hein, quand vous entendez humanité intégrale, c'est l'humanité intégrale telle qu'elle est voulue par la sagesse créatrice de Dieu. Et d'après l'enseignement du pape Saint Jean-Paul II, eh ben, l'humanité intégrale, c'est le déploiement vivant et incarné du troisième bara de la signification sponsale de notre humanité. C'est là où l'humanité est intégrale parce qu'elle n'est pas perturbée par les séquences, les séquelles du péché originel. Les pauses sont abîmées par les séquelles du péché originel. Mais l'humanité intégrale n'est pas associée aux faiblesses humaines les plus déplorables. Comme dit le pape Saint Paul VI, toutes les vertus que nous avons sur la terre, si elles sont liées quand même aux défaillances, aux faiblesses humaines les plus déplorables. Et l'humanité intégrale, elle a des vertus. Et c'est celle qui échappe, si je puis dire, aux faiblesses les plus déplorables. Mais associée à toutes les autres vertus humaines, il y en a 88, là, malheureusement, si on n'est pas dans la grâce surnaturelle, si on n'est pas le temple, l'obombration, les obombrés de la maternité divine de Marie, sur toute la grâce capitale et toute la grâce déversée dans dans la subsistance à l'intérieur de Dieu, la subsistance internelle, éternelle et agréée de Dieu. Mais nos vertus ont beau être les plus splendides, s'il n'y a pas la grâce surnaturelle, elles nous font descendre vers quelque chose qui n'est ni oui, ni non. Et le pape Saint Paul VI, vous avez vu, la vertu de religion, c'est une vertu naturelle. qui n'est pas liée à la maternité divine de Marie sur toute l'Église, eh bien, la vertu de religion, elle est associée aux faiblesses humaines les plus déplorables. Et il nomme l'hypocrisie. La vertu de religion n'est pas faite pour couvrir l'hypocrisie. Elle est faite pour s'associer. Ah oui. Du Père, lorsqu'il reçoit le oui de Marie, pour en faire un seul oui dans l'engendrement, dans la fécondité de la vie divine, de la vie d'amour. Vérité du coup de la deuxième personne de la très sainte Trinité et l'ajustement, la paternité à Marie s'embrasse et embrasse les deux principales premières vertus humaines de notre humanité intégrale. C'est beau ça qu'il ait dit ça, hein, l'humanité intégrale est responsable dans le dépassement de l'unité des deux. Et il y a ces deux vertus, cette vérité. Et la justice. Là, notre oui n'est pas abîmé par la proximité des faiblesses humaines les plus déplorables, et en particulier cet esprit double. Secret, c'est occulte, on cache. Et j'aime bien cette formule. Nous devons libérer le chrétien de cette opinion fausse et dégradante qui lui permet de jouer avec le nom de Dieu, avec la parole. C'est vrai, faire attention. Je crois qu'on a dépassé quand même ces années où il n'y avait pas un seul film à la télé où les acteurs dans le film, le cinéma, etc., prononcent le nom de Dieu. Ça. D'une manière... ça, il y a eu une apparition de la Vierge pour pleurer pour ça, à cause de ça. C'est à la salette. Il prononce le nom de mon fils. Ça, on le voit un peu moins, quand même. On a prononcé le nom de Dieu comme les charretiers, quoi. Mais il faut faire attention, parce que si on est trop habitué à une vie, parce qu'on a reçu un certain charisme, on prononce peut-être le nom de Dieu en dehors de la grâce surnaturelle. Et au nom de la grâce charismatique. Et c'est peut-être pas bien. Pas mettre Dieu à toutes les sauces. Parce que le charisme, ça m'est personnel. Tandis que la grâce surnaturelle, c'est propre à Marie. Il faut prendre grande précaution aujourd'hui. Et cette opinion que je peux le faire, parce que elle est fausse et elle est dégradante. On ne peut pas jouer avec cette parole. Alors que soit oui, que votre oui soit oui. Alors regardez bien. Jésus dit que votre oui soit oui. Vous ne pouvez pas jurer, vous ne pouvez pas. Quand vous vous donnez à Dieu, quand vous vous donnez à Dieu, quand vous vous donnez au Seigneur, quand vous vous donnez au Saint-Esprit, quand vous vous livrez dans ce feu qui fond en vous, dans l'Esprit Saint. Quand tu vas faire un vœu, quand tu vas te consacrer à la vérité tout entière, quand tu vas te consacrer au Père, eh bien tu ne le feras ni par le ciel, ni par le trône de Dieu, ni par la terre, parce que la terre, c'est le corps spirituel, la terre promise, glorifiée, et c'est le marchepied de Dieu, ni par Jérusalem, parce que c'est la cité du grand roi. Ni sur ta propre tête, parce que c'est le Christ en sa grâce capitale. Tu le feras à cause de ton oui originel. Dans l'un. Que votre oui soit oui. Le seul moment où la créature spirituelle humaine incarnée peut se consacrer en toute vérité, c'est dans le oui de sa conception, quand il est créé par Dieu. C'est là qu'on doit faire son vœu, lorsqu'on se consacre à la vérité tout entière, lorsqu'on se consacre à Dieu. Il faut le faire à partir du oui qui est oui. Quand on a oui, ça oui. Alors à ce moment-là, notre nom à Satan, notre nom à Lucifer, c'est vraiment un nom. Si je laisse mon oui, ma conception, se visiter par la fécondité du oui surnaturel de l'Immaculée Conception, sa maternité vis-à-vis de l'Église tout entière, à ce moment-là, mon oui sera un oui. Mon vœu sera ma consécration. Quand je veux pauvreté, chasteté, virginité, obéissance, pour donner toute ma vie. Pour nous, c'est devenu une habitude de voir que c'est comme ça, que c'est dans ce lieu-là du Saint, des saints, de la paternité ouverte, où la grâce surnaturelle de Marie se déploie et vient visiter toutes les conceptions humaines. C'est possible cela, à cause de la maternité divine de Marie, eucharistique infailliblement et intégralement. Alors nous sommes dans ces jours-là. Lundi de Pentecôte, c'était le 10 et la fête du Sacré-Cœur, 19 jours. Il y a 19 jours entre la fête de Marie, mère de l'Église, fête universelle, eucharistique et infailliblement féconde dans la substance de notre oui. Et la fête du Sacré-Cœur, on est dans ces 19 jours-là. Et il y a 9 jours, vous voyez, entre... On fait une neuvaine en ce moment. L'intention de la messe, d'ailleurs. Elle poursuit cette neuvaine jusqu'au dimanche prochain. Jusqu'au dimanche, c'est 9 à partir d'aujourd'hui. 8, 9, 10, jusqu'à dimanche. C'est une neuvaine, on fait une neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus. Quelqu'un qui m'a demandé ça, je trouve ça très bien. Et on célèbre la messe. Ici, on est dedans, on est englouti dans l'offertoire, à l'intérieur de cette intention, de cette montée, quoi, à l'intérieur de la neuvaine de Saint-Joseph, dans la maternité divine de Marie. 19 jours, vous le savez, que 19 dans la Bible, ça représente Saint-Joseph. Hein. On est dans ces 19 jours, et au cœur, au milieu, il y a une neuvaine. 4 jours avant, 3 jours, 3 jours après, 4 jours après. Et bien, je trouve ça ce serait magnifique si on pouvait intégrer ce que ça peut signifier eucharistiquement que de vivre dans la présence eucharistique infaillible du oui de Saint-Joseph, cette montée de la maternité divine de Marie en nous, là, jusqu'à la fête du Sacré-Cœur. Mais d'abord, en s'engloutissant dans la fête du Saint-Sacrement. Et oui, après la Pentecôte, chaque année, le dimanche d'après, c'est la fête du Saint-Sacrement. La fête de la Très Sainte Trinité, pardon. Et le dimanche encore après, c'est la fête du Saint-Sacrement. Et le jeudi qui suit la fête du Saint-Sacrement, cette année, c'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Pour l'an 2019, les symboles convergent ensemble pour nous indiquer où est-ce qu'il faut être catapulté par la supervenue du Saint-Esprit. Laisser l'Esprit Saint fondre toute la Jérusalem nouvelle qui est dont nous sommes le temple, pour que on puisse être enfoncé et incarner notre oui. Dans la maternité divine de Marie pour toute l'Église, mais à l'intérieur de cette spensalité, oui, il y a une chose que je trouve que c'est important quand même, parce que quand le pape il dit, voilà, maintenant il y a la maternité divine de Marie, hein, à partir de l'an 2019, 18-19, qui s'inscrit durablement, voilà, ça y est, là, mais c'est... Et puis il canonise Jean-Paul II, il canonise Paul VI, comme ça. Et eux, deux, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils disent tous les deux? Ils disent, mais il y a l'humanité intégrale, il y a la maternité divine de Marie. Et qu'est-ce qu'il dit, Saint Jean-Paul II? Mais il dit, mais il y a la spensalité, il y a l'humanité intégrale. Ils expliquent ce que c'est que l'humanité intégrale. Il révèle à la terre tout entière dans un magistère ordinaire et universel quelque chose qui appelle à l'adhésion totale de la foi pour qu'on y pénètre. Si on adhère par la foi à l'enseignement du Saint-Père, on y adhère. Et on s'en laisse pénétrer comme... et on en vit. Du coup, ça nous oblige à comprendre que la maternité divine de Marie, ben, elle est liée à Saint-Joseph. Elle est liée à la sponsabilité, elle est liée à l'humanité intégrale. C'est la Sainte Famille qui est l'unité entre Saint-Joseph et l'Immaculée Conception. La première fois que ça s'est réalisé, cette unité dans la chair, c'est au moment où Marie a été conçue, Immaculée Conception. C'est un contact direct avec Saint-Joseph dans son mariage spirituel et sa spensabilité surnaturelle, accomplie, surabondante, jusqu'à l'assomption qu'il en a été fait dans cet ordéma, à l'intérieur de la substance qu'il spire de l'intérieur de lui-même, de l'hypostase, de la nature, pardon, essentielle et substantielle de Dieu, dans l'hypostase de la première personne de la Très Sainte Trinité. Le contact est physique, là, avec l'Immaculée Conception créée dans la chair, dans son premier instant, la première fois qu'il y a eu un contact. Ce contact ne s'est pas réalisé dans la terre, et ne s'est pas réalisé dans les ciels. Elle s'est pas résidée dans la Jérusalem. Ni spirituelle, ni dans la Jérusalem dernière. Non, elle s'est pas réalisée là. Elle s'est réalisée dans la nature, l'essentiel et un gré de Dieu. Et sur la terre en même temps, parce qu'on ne peut pas le nier, Joseph était dans notre terre. Et bien, le premier contact physique, c'était ça. Ce qui montre bien que le oui de la première cellule, de notre premier oui originel, est un oui qui est parfaitement humain. On n'est pas un amas de cellules. Ce qui montre que le oui originel nous fait toucher ce qui est non seulement l'humanité intégrale de notre oui, mais aussi le oui de Dieu. Et l'unité indissoluble des deux oui, qui fait qu'on peut dire non au nom de la nature humaine tout entière à Satan, au mal. Et à toutes ces faiblesses humaines les plus déplorables. De mélanger les deux, ça ne peut pas se faire. L'hypocrisie. On ne peut pas faire croire aux hommes cette opinion fausse et déplorable qu'ils peuvent jouer avec ça. À cause de la miséricorde. Il y a une théorie, hein, à cause de la miséricorde. Mais oui, tu peux jouer avec ça. Un prêtre qui joue comme ça et qui continue à enseigner, mais il vaut mieux qu'il se retire, qu'il n'enseigne plus rien. Même s'il a formé 20 000 prêtres. Un jour, Saint Bruno s'est trouvé devant quelqu'un qui avait formé pratiquement tout le clergé européen à Paris. Et à Notre-Dame de Paris, avant qu'elle ne flambe, on a enterré ce prêtre, qui était le maître spirituel et théologien de Saint Bruno. Et devant la foule, il y en avait une foule derrière, dans la cathédrale. Ce qui était connu. Au moment de l'absoute, vous le savez, vous connaissez cette histoire, ben, le cadavre s'est redressé dans le cercueil. Il a dit, je suis convoqué devant le tribunal de Dieu. Et tout le monde l'a entendu dans la cathédrale. Et chut, il est retombé mort. On a interrompu la cérémonie. L'archevêque de Paris, les archevêques, tous les évêques qui étaient là. Bon, on reprend la cérémonie une heure après, au moment de l'absoute. Se redresse et il crie : je suis jugé ! Vous connaissez l'histoire quand même, hein. Ça fait partie de ces. Et puis là, ils attendent. Il dit, il faut qu'on fasse un synode. Hein. Ça, on n'a jamais vu ça, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que le lendemain, ils reprennent la cérémonie, troisième fois. Ils disent, bon, une troisième fois, ils se redressent. Au moment de l'absoute, il dit, en hurlant avec un cri effrayant, je suis condamné. Celui qui avait formé tous ces prêtres, théologie parfaite. Il y avait un double jeu. Il y avait une hypocrisie. Il mettait Dieu à toutes les sauces. Il n'y avait que Dieu. Il était le maître. Enfin, il communiquait Dieu. Tu ne peux pas jouer avec ça. Ils ont interrompu la cérémonie. Et il a été jeté à la fosse commune.
C'était quand ça?
Saint Bruno. Et Saint Bruno, quand il a vu ça, il dit ça va. Et moi, je vivrai la très sainte Trinité. Et rien d'autre. Et il a fondé. C'est comme ça que les Chartreux étaient fondés. D'avoir été enseigné par quelqu'un qui est double comme ça. Il faut faire attention. D'avoir été sur le joug, subjugué par quelqu'un qui vous donne des messages du ciel, qui sont les messages de l'Église. Il faut faire attention. Si ce n'est pas dans l'humanité intégrale d'une spontanéité assumée, dans les fins dernières, hein, c'est la divine de Marie. Moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a subjugué aussi, comme Saint Bruno avait été subjugué. Et au niveau sponsalité, il était complètement en dehors. La signification sponsale de son corps était absolument... associé directement aux faiblesses humaines les plus déplorables et magnifié en tout cas, magnifiant encore plus, dans une ferveur plus grande, la communication de la vérité divine de l'Église en raison de la miséricorde de Dieu. Je vais vous dire une confidence. Ce matin, avant de me réveiller, il est venu me voir. Je l'ai vu. Et il y avait des discussions continuées quoi, pendant mon sommeil avec lui. Et à un moment, il était tellement mécontent que je regarde autre chose que son enseignement dans mon rêve. C'est pas un cauchemar, je crois pas. Ça lui arrivait d'être furieux. Et ses yeux sont devenus jaunes et noirs. C'était les yeux de Lucifer. Ça m'a réveillé. J'ai regardé l'heure. C'était 7h38 du matin. C'est ce matin. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire. Ça veut dire qu'il faut qu'on se consacre, qu'on se voue dans l'esprit de virginité, dans l'esprit de pauvreté. Il faut qu'on fasse comme le roi. Le véritable Israël de Dieu sur la terre qui est notre contemporain aujourd'hui. Et on ne l'entend pas. Hein. Son humilité... Il est dans sa vertu surnaturelle de grâce reçue de la maternité de Marie et Joseph. Il est la quasi-incarnation de l'humilité éternelle de Dieu. Alors, on ne le verra pas, il ne se mettra pas en colère si on ne l'écoute pas. Que votre oui soit oui. Entre oui soit oui. Si tu refuses la responsabilité, si tu refuses le oui originel, qui est le premier instant dans la nature humaine du contact entre Marie et Joseph, pour exprimer hein, ensuite dans l'Assomption, où ils seront tous les deux à l'intérieur du monde ingrédient de la fécondité, de l'époux et de l'épousée. Si tu refuses le oui originel, de l'animation immédiate, enfin, je m'excuse de dire ça, mais c'est pour ça, ça, tu as coupé ces deux alpha et oméga de toute la sainteté de l'Église, de tous les temps, tous les lieux, toute la doctrine infaillible. Si tu as coupé ça, eh bien, tout ça, ça vient du mauvais, parce que tu as coupé. C'est extraordinaire ça. Et les deux yeux qui étaient là. C'était pas les couleurs du Vatican, hein, blanc et jaune. C'était pas du blanc, c'était du noir. Votre oui soit oui. Ah, c'est beau, vous voyez, quand je répète, vous voyez, quand le pape Saint-Paul VI, il dit la première vertu humaine de l'humanité intégrale, c'est la vérité. Et la deuxième, c'est la justice. C'est extraordinaire, ça. C'est vrai, dans l'humanité intégrale de l'unité spatiale, dans le oui originel, la vérité et la justice s'embrassent. C'est extraordinaire de dire ça. Hein? C'est-à-dire le Père et le Fils, c'est ça que ça veut dire. Hein? La vérité, c'est la conception éternelle et créée de Dieu. Et là, justement, oh oui, reçu de la responsabilité de Marie. Et Joseph parle oui de Marie. Intégré, Dieu s'agit tout le temps. Oh oui, de l'autre créé, de l'autre surnaturellement. Assumé dans l'incréé. Et après, il y a toutes les autres vertus. Et donc, quelqu'un qui est parfait, d'une bonté, d'une... je sais pas, simplicité, une magnanimité, dit le pape Saint-Paul, magnanimité, tu vois les choses en grand, grand. Et ben on est dans ces jours-là, dans ces jours, dans ces 19 jours. Il faut vraiment qu'on soit petit à petit, notre corps s'habitue à être au bon pré par Saint Joseph, venant vers sur le souffle du Saint-Esprit, venant comme ça vers dans l'espérance de l'anastase, venant dans le déploiement fulgurant de l'Immaculée Conception à l'intérieur de Dieu, à partir de cette rencontre qu'il va y faire en lui, inspirant la nature divine de la première personne de la très sainte Trinité. Qu'on soit avec lui dans cette rencontre prodigieuse du oui véritable. Fait la main divine de Marie et Saint Joseph, et non seulement il n'en est pas absent, mais il en est là, il en est la source. Il n'a pas couru derrière Marie, hein. Je cours derrière avec l'âne. Hein. Non, non, il a pris Marie et l'enfant. Il l'a amené dans la coupe. Et que ces 19 jours qui sont mis à profit, quoi, dans notre manière intérieure, de laisser cette transformation faire que Saint-Joseph et nous soyons un dans ce mouvement vivant. Eucharistique dans la fête du Saint-Sacrement, vers la fête du Sacré-Cœur, c'est-à-dire vers la mise en place du corps spirituel de Marie et Joseph en nous, qui avons la foi sur la terre aujourd'hui, pour que le monde nouveau puisse se répandre du nouvel Israël de Dieu jusque dans le monde entier et dans l'univers entier à partir de la France, à partir de la royauté, une royauté d'humilité, de grâce surnaturelle. Et la seule grâce qui dépasse la Jérusalem, la seule grâce qui dépasse le trône de Dieu, la seule grâce qui dépasse le ciel angélique et glorieux, la seule grâce qui dépasse la tête. Ce mouvement éternel et incréé de Dieu vers l'union hypostatique est la source de toute grâce surnaturelle. J'arrive pas à comprendre, moi, les chrétiens qui disent bon, faut pas parler de que Marie est mère de l'Église, quoi, mère de la grâce. Faut pas dire ça, c'est. Faut pas faire de la Mario, je sais pas quoi. Il y a des gens qui sont comme ça, ils disent ça c'est du. C'est. Je comprends pas. Je comprends pas en quoi, pour des prêtres, des évêques, des cardinaux, pourquoi ça. Ça leur fait difficulté, Marie médiatrice de toutes les raisons. Enfin, je vois pas en quoi, je veux dire, si. C'est pas moi, Dieu, voici ta mère. Oui. Déjà, Isaïe le prophète, c'était évident pour lui. La Vierge concevra à l'Éternel lui-même. Dans sa virginité. Et la virginité et la virginité de Dieu sont une seule virginité fécondante. De la virginité incréée de Dieu dans une fécondité qui conditionne la création tout entière. Alors concrètement, tout ça, toujours pareil, quand on fait notre oraison, les premiers moments de l'oraison, toujours. L'œil et la main. Premier moment de l'oraison, la considération. Je dois regarder ce dans quoi je me voue, me consacre, pour être transformé dans l'heure qui vient. Et je. C'est pas une méditation, Attention. Je pose mon regard, c'est-à-dire le petit point de la source de ma vie intérieure qu'on appelle l'âme. Et avec ce qui est l'œil de ma vie, je regarde ce dans quoi je veux être transformé. Je veux transformer dans ce oui. De la maternité divine de Marie, dans la conception assumée, d'une spontanéité. C'est là, voilà. Donc je ne mets pas à la périphérie et en dehors, s'il vous plaît, la spontanéité, la périphérie en dehors. L'origine du oui. Non. Je veux l'intégrer en vivre avec Saint-Joseph comme lui l'a vécu, sans rien mettre en dehors de ce qu'il a vécu lui, pour arriver à cette rencontre-là, dans cette considération-là, pour l'âme, pour au nom et en présence de la nature humaine, tout entière, intégrale. Et c'est là, je considère que je m'engloutis là, me laisse emporter là, me laisse recueillir là tout le déploiement de l'instinct de l'intérieur, de l'au-delà, de la Jérusalem elle-même. Parce qu'elle en est la source. Et je considère, je pose cette considération, je regarde. Je vois ce que ça signifie, parce que j'en connais les diverses composantes, et j'y suis rentré pour en faire de l'expérience surnaturellement. Et puis, je m'y abandonne, et puis je me laisse prendre, et je laisse le bon Dieu faire le reste. Et il fait la transformation, la dilatation de toute la réceptivité surnaturelle de mon corps, que la grâce surnaturelle de l'Église se déployant en moi dans la transformation par laquelle Saint-Esprit se fond en moi pour, à l'intérieur, faire cette transformation. Et du coup, l'acte de la transformation, la main, est opérante parce que je laisse Dieu faire. Je laisse Dieu prolonger sa procession intime jusque dans ma transformation en la nature humaine intégrale et universelle qui peut venir visiter.